RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers amis, voici les nouvelles de la voix de l'Indonésie à Jakarta. La 25e réunion du Conseil de coopération économique du Pacifique, PECC, se tiendra à Jakarta les 7 et 8 mai 2018. La réunion abordera les défis confrontés par le système économique mondial actuel. La réunion a été organisée par le PECC en collaboration avec le Centre d'études stratégiques et internationales à Jakarta, en même temps avec le premier dialogue mondial du Centre mondial d'études stratégiques et internationales. Le thème est « Perturbation mondiale, le besoin d'architecture et un nouveau modèle d'affaires régionales », a déclaré Marie-Elka Pangestu en tant que co-président du Comité national indonésien pour PECC à Jakarta jeudi. La réunion impliquera trois groupes différents, à savoir le gouvernement, les entreprises et les académiciens. Le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, participera à la 45e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à Dhaka, au Bangladesh, les 5 et 6 mai 2018. Comme affirmait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Nasir. Selon Armanata, la conférence ministérielle de l'OCI cette année abordera le thème des valeurs islamiques pour une paix, une solidarité et une prospérité durable. Selon Armanata, il y a plusieurs questions qui seront discutées par le gouvernement indonésien dans la conférence ministérielle de l'OCI. Un des efforts pour améliorer la performance des pays membres de l'OCI pour faire face aux défis globaux et aux défis spécifiques auxquels font face les pays de l'OCI. Il a dit, il y a quelque temps, le président Joko Widodo a proposé un mécanisme avec l'OCI pour résoudre divers conflits entre les pays de l'OCI. D'autres questions qui seront soulevées par le gouvernement indonésien lors de la réunion sont, entre autres, les efforts pour augmenter la coopération entre les pays de l'OCI dans le domaine de l'économie et de la santé. Berita akan diteruskan pada hari Sabtu besok. HDS untuk hari Sabtu tanggal 5 Mei. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 5 mai. Le premier, la journée européenne. La journée européenne est une célébration annuelle de la paix et de l'unité en Europe. Il y a deux journées européennes distinctes, le 5 mai désigné par le Conseil de l'Europe et le 9 mai stipulé par l'Union européenne. Le Conseil européen a été formé le 5 mai 1949 et a voté le 5 mai comme jour férié en 1964. L'Union européenne a décidé en 1985 de célébrer la Journée de l'Europe à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration Schuman le 9 mai. La déclaration émise le 9 mai 1950 a projeté de fusion de l'industrie du charbon et du fer de la France et de l'Allemagne ouest. Musique. Le 5 mai 2004, le réformateur islamique indonésien Abdul Mukti Ali est décédé. Abdul Mukti Ali a été le pionnier du libéralisme de la pensée islamique à l'époque de l'Indonésie moderne. Abdul Mukti Ali est connu pour être très modéré et désireux d'apprécier le pluralisme à la fois dans les sociétés islamiques et en dehors de l'islam. Il est également très préoccupé par le monde de l'éducation. Ses messages de renouveau islamique ont son style et sa manière distinctive. Contrairement à la plupart des autres penseurs et réformateurs islamiques, Mukti Ali présente l'idée libérale islamique avec une idée claire et complète, de sorte qu'elle ne répond pas aux gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Il se réforme et l'idée d'un islam libéral n'est pas provocatrice et s'accompagne de solutions. Musique. Le 5 mai 2007, l'accident du vol 507 de l'avion Kenya Airways. Le vol 507 de Kenya Airways est le vol Boeing 737-800 de Kenya Airways au départ de l'aéroport international Douala à Douala, Cameroun, vers l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi, Kenya. Ce vol part de l'aéroport de Port Boué à Abidjan, Côte d'Ivoire, mais s'arrête à Douala pour prendre un certain nombre de passagers. L'avion s'est écrasé près de la ville de Lolodorf, à environ 160 km au sud-est de Douala, au sud de Cameroun, le 5 mai 2007, causant la mort de 105 passagers et de 9 membres d'équipage. Kenya Airways a déclaré que ses passagers venaient de 26 pays. Sur la base des enquêtes menées par le Cameroun et le Kenya, l'accident est causé par une erreur de pilotage qui a quand même décidé de décoller, même si le temps était alors très mauvais. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de créer une percée pour établir une coopération concrète avec les pays de la région du Pacifique Sud. L'Indonésie a un grand potentiel pour développer des marchés non traditionnels dans cette zone. Lors d'une réunion limitée du cabinet vendredi au bureau présidentiel de Jakarta, le président a déclaré qu'il était optimiste que le pays de la région du Pacifique Sud s'ouvrirait pour établir des relations de coopération mutuellement bénéfiques avec l'Indonésie. L'Indonésie, selon le président, devait pouvoir profiter des avantages géographiques qui sont proches des deux continents et des deux océans.
Untuk negara-negara di kawasan Samudra Pasifik, kita perlu terobosan untuk menggalang kerjasama.
Tous les pays de la région de l'océan Pacifique et nous avons besoin d'une percée pour établir une coopération plus concrète, notamment la coopération avec les pays de la région du Pacifique Sud qui est géographiquement proche de notre pays. Je suis sûr que les pays de la région du Pacifique Sud tels que Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga sont très ouvertes à la coopération avec notre pays dans divers domaines.
Tonga, sangat terbuka untuk bekerjasama dengan negara kita dalam berbagai bidang.
Selon le président, la coopération avec ce pays couvre les domaines de la culture, l'éducation, l'économie, l'investissement et le commerce. Il a également encouragé à développer le marché dans les pays non traditionnels, y compris les pays de la région du Pacifique Sud. La menace cybernétique est de plus en plus inquiétante pour la résilience de l'Indonésie. Pour anticiper les attaques de cyber, le ministère indonésien de la Défense envoie des équipes à l'étranger pour étudier divers types de cybercriminalité. Cela a été déclaré par le ministre de la Défense Ria Mizat Riakudu à Jakarta vendredi. J'ai également envoyé 10 personnes à l'étranger pour l'étudier à nouveau. J'ai commandé d'étudier en groupe au ministère de la Défense. Je prends le S1 et S2 qui pratiquent pour défendre le pays. Il est un expert en technologie de l'information. Alhamdulillah, espérons que le cyber du ministère, est le meilleur en Asie du Sud-Est et le meilleur en Asie du Sud-Est. Selon le ministère de Mizat Riakudu, le ministère de la Défense va recruter le meilleur personnel d'équipe à envoyer à l'étranger pour prendre toutes sortes de problèmes de cybermanipulation. Les gouvernements indonésiens et français ne se sont mis d'accord sur une coopération du plan de financement du développement du système d'information météorologique. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Paris, cité par Antara à Jakarta, déclare récemment que les deux pays ont signé le protocole financier pour le financement du projet de Strengthening BMKG Pass 2, STR-02. Le projet sera mis en œuvre par l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique en 2019. Le protocole financier a été signé entre Lucky Affirman du ministère des Finances représentant le gouvernement de l'Indonésie et Geoffrey Clestan Ubah du ministère de l'Économie et des Finances représentant le gouvernement de la France. C'est le deuxième protocole financier pour le renforcement de la capacité de services climatiques et météorologiques BMKG. Le premier protocole financier a été signé le 29 décembre 2017, destiné aux activités de développement des systèmes d'information météorologique maritime. Le projet STR-02 est un projet prioritaire du gouvernement indonésien qui vise à développer les systèmes complets d'information sur le climat, en particulier les systèmes d'alerte précoce pour toutes les régions de l'Indonésie. Le projet est également utile pour améliorer la diffusion d'informations connexes, telles que des informations sur l'aviation, la marine ou les informations météorologiques pour le public. Ces auditeurs, c'était notre journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Des informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Kupang, Nusa Tenggara Est. Le directeur général de PT PLN Persero de la région Nusa Tenggara Est, Cristiano, a déclaré que jusqu'à présent, la condition de l'électricité dans la province a un excédent de 52,01 MW préparé pour soutenir la présence de l'investissement. Les réserves sont principalement détenues par trois systèmes d'interconnexion, à savoir l'île Timor, 30,89 MW, l'île Flores, 13,91 MW et l'île Sumba, 2,73 MW. En outre, les autres îles représentaient 4,48 MW. La connexion de puissance excédentaire qui est maintenant détenue est prête à soutenir les besoins en énergie des acteurs économiques qui veulent investir. À cette fin, PRN continue d'établir une communication et une synergie avec les entrepreneurs pour qu'ils investissent avec l'appui de la disponibilité en électricité existante. Ensuite, l'info de Surabaya, Chevaes. Plusieurs 1500 personnes animent l'événement de la saison de la santé Surabaya 2018 qui se tiendra dans le but d'accueillir le 725e anniversaire de la ville Surabaya à Taman Surya samedi 5 mai. Selon Johanna Susi Emissa, la chef de division de la santé publique du Bureau de la santé de la ville Surabaya, il y a un nombre d'activités intéressantes dans cet événement, ayant pour thème la culture de la santé des patients améliore la qualité de la santé. Il y a la consultation sur les médicaments par l'Association indonésienne des pharmaciens, y compris l'Association indonésienne des dentistes, qui offre une consultation et un examen simple. Un tel événement implique l'exposition des PME assistée de plusieurs agences connexes, telles que les départements de contrôle de la population, de promotion de la femme et de protection de l'enfance, l'Agence de sécurité alimentaire et agricole et le département coopératif. La dernière info vient aussi de Surabaya. Un certain nombre de jeunes de Java-Est dans l'organisation Pawiatan Suluh Nagari font une demande de testeurs d'informations sur les canulars nommés Opinium, qui a été lancé en même temps que la Journée nationale de l'éducation à Surabaya, mercredi. L'initiateur d'Opinium, Hasanuddin, a déclaré que l'application est de tester le canular et non la machine de prise de décision slogan qui a téléchargé, testé et révélé. Le processus de test est basé sur les interactions de la communauté incorporée dans l'opinion. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Cependant, ce n'est pas un nom en vote parce que chaque opinion dans cette opinion a des poids différents. Le conseiller d'opinion, Sabrang Mowo Damarpanuluh, a révélé que chaque article dans opinion contient des sujets. La réputation de l'utilisateur sera un sujet construit après avoir pu contribuer. Comme une application, il est espéré qu'il y aura un réciproque des utilisateurs d'opinion. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 5 mai. Le premier, la Journée européenne. La Journée européenne est une célébration annuelle de la paix et de l'unité en Europe. Il y a deux journées européennes distinctes, le 5 mai désigné par le Conseil de l'Europe et le 9 mai stipulé par l'Union européenne. Le Conseil européen a été formé le 5 mai 1949 et a voté le 5 mai comme jour férié en 1964. L'Union européenne a décidé en 1985 de célébrer la Journée de l'Europe à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration Schuman le 9 mai. La déclaration émise le 9 mai 1950 a projeté de fusion de l'industrie du charbon et du fer de la France et de l'Allemagne ouest. Le 5 mai 2004, le réformateur islamique indonésien Abdul Mukti Ali est décédé. Abdul Mukti Ali a été le pionnier du libéralisme de la pensée islamique à l'époque de l'Indonésie moderne. Abdul Mukti Ali est connu pour être très modéré et désireux d'apprécier le pluralisme à la fois dans les sociétés islamiques et en dehors de l'islam. Il est également très préoccupé par le monde de l'éducation. Ses messages de renouveau islamique ont son style et sa manière distinctive. Contrairement à la plupart des autres penseurs et réformateurs islamiques, Mukti Ali présente l'idée libérale islamique avec une idée claire et complète, de sorte qu'elle ne répond pas aux gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Il se réforme et l'idée d'un islam libéral n'est pas provocatrice et s'accompagne de solutions. Le 5 mai 2007, l'accident du vol 507 de l'avion Kenya Airways. Le vol 507 de Kenya Airways est le vol Boeing 737-800 de Kenya Airways au départ de l'aéroport international Douala à Douala, Cameroun, vers l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi, Kenya. Ce vol part de l'aéroport de Port Boué à Abidjan, Côte d'Ivoire, mais s'arrête à Douala pour prendre un certain nombre de passagers. L'avion s'est écrasé près de la ville de Lolodorf, à environ 160 km au sud-est de Douala, au sud de Cameroun, le 5 mai 2007, causant la mort de 105 passagers et de 9 membres d'équipage. Kenya Airways a déclaré que ses passagers venaient de 26 pays. Sur la base des enquêtes menées par le Cameroun et le Kenya, l'accident est causé par une erreur de pilotage qui a quand même décidé de décoller, même si le temps était alors très mauvais. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre mission avec mon Indonésie et en titre, le président Jokowi et Sultan Bolkiah discutent du commerce, de l'investissement et de TKI. Le sultan de Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah, accompagné de son épouse et de plusieurs ministres, a visité l'Indonésie jeudi 3 mai. L'arrivée de Sultan Bolkiah a été saluée par le président de l'Indonésie, Joko Widodo, soit Jokowi, au palais présidentiel Bogor, Jawa West. Lors de cette réunion, le président Joko Widodo et le sultan Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah, ont discuté du problème du commerce, de l'investissement et de la main-d'œuvre d'Indonésie, TKI. Le président Joko Widodo était accompagné du ministre coordinateur pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité Wiranto, de la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, de la ministre de la Santé, Nila Muluk, du ministre du Travail, Hanif Dahiri, et du ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi. À l'ouverture de la réunion, le président a souhaité la bienvenue au sultan de Brunei et a souligné que la coopération entre les deux pays dans divers domaines fonctionne très bien. Le sultan de Brunei a déclaré que sa visite en Indonésie cette fois-ci est une réponse à la visite du président Jokowi à l'occasion du 50e anniversaire de Sultan Hasanah Bolkiah Bertahta le 6 octobre 2017. Après la réunion, la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a déclaré aux médias que la rencontre bilatérale entre les deux dirigeants du pays porte sur les questions commerciales, l'investissement, le travail et l'emploi. La ministre Retno a indiqué que le commerce entre la Tunisie et le Brunei a diminué en valeur, pas en volume, en raison de la chute des prix du pétrole. Le Brunei exporte beaucoup de pétrole vers la Tunisie. Lors de la réunion bilatérale, les deux dirigeants ont évoqué la nécessité de trouver des moyens d'accroître le commerce, notamment en explorant de nouveaux domaines de coopération et d'investissement. Dans le domaine de l'agriculture en Indonésie et au Brunei, entre autres, ils travaillent ensemble pour développer les variétés Sembada B9 et Sembada 188. En ce qui concerne le problème du travail, Retno Marsudi a expliqué qu'il y a environ 80 000 citoyens indonésiens qui vivent au Brunei Darussalam et la plupart y travaillent. Selon Retno Marsudi, lors de la réunion, le sultan a exprimé sa gratitude pour l'existence de travailleurs migrants indonésiens TKI au Brunei Darussalam qui ont contribué économiquement et socialement. Le président Jokowi confie les travailleurs migrants résidant au Brunei à Sultan Bolkiah, qui a exprimé son engagement à prêter attention à la sécurité et à la prospérité des citoyens indonésiens dans son pays. Après la réunion au Palais Bogor, le président Joko Widodo et le Sultan Hasanah Bolkiah ont visité le quartier général de l'Armée nationale d'Indonésie TNI à Cilangkap, Jawa West. Le président Joko Widodo a confirmé que le Brunei Darussalam avait officiellement acheté l'équipement principal du système d'armes de la production indonésienne sous la forme d'armes et de chars danois. Le gouvernement a déjà coordonné avec PT Pindad sur les équipements de défense qui seront produits en accord avec la commande de Brunei. Les deux dirigeants ont également discuté des problèmes en dehors des deux pays, y compris l'importance de l'unité de l'ASEAN et le soutien au centre d'aide humanitaire de l'ASEAN basé à Jakarta. Ils ont également convenu de l'importance d'encourager le règlement des négociations sur les directives comportementales concernant la question de la mer de Chine méridionale. Chers amis, c'était mon Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel introduisant l'art d'Ongkrek en provenance de Madiun, Jawa Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix de l'Indonésie. Madiun, une ville en province Jawa Est, en Indonésie, est située à 160 km à l'ouest de Surabaya. En plus d'être connue comme la ville du centre de l'industrie ferroviaire, Madiun est aussi une région riche en histoire et riche en culture. L'un des célèbres arts de Madiun est l'art d'Ongkrek. D'Ongkrek est un mélange d'art musical et de mouvement de danse originale de Madiun. L'art Dongkrek est né en 1867 dans le sous-district Charuban, qui à cette époque changea de nom pour sous-district Mejayan en région Madiun. En 1910, Dongkrek fut popularisé par Raden Bey Lo Prawiro Dipuro, qui était à l'époque un chef de village qui supervisa 5 villages en région Charuban. Selon l'histoire, vers 1879, les habitants du village Mejayan ont été frappés par une épidémie mortelle. Souffert de maladie pendant la journée et dans l'après-midi est mort, ou malade le matin et le soir est morte. Dans sa tristesse, Raden Prawiro Dipuro médite dans la région montagneuse Kidul à Charuban. Il obtient alors Wangsit, soit message occulte, pour créer une sorte de danse d'art qui est capable de repousser les renforts. Le message obtenu représente que les courtisans du royaume des esprits peuvent seulement être expulsés par les résidents de Mejayan en les chassant du village. Pour cette raison, il y a une sorte d'art qui décrit l'expulsion de l'esprit. Cette tradition est devenue plus tard le caractère culturel de la société Charuban en tant que Dongkrek. Un art qui contenait le message que toute intention malveillante serait finalement vaincue par la bonté et la vérité. La société à cette époque a entendu de la musique de l'art Dongkrek sous la forme de son dung, du tambour et krek, des instruments de musique appelés korek. Du son de dung et de krek vint le nom de l'art Dongkrek. L'outil korek sous la forme de bois, en forme de carré avec une extrémité, il y a une poignée en bois dentelée qui, quand on glisse, sonne crack. Dans son développement, on a également utilisé d'autres instruments de musique tels que gong, kenung, kentongan, kendang et gongberi comme un mélange de la culture islamique, de la culture chinoise et de la culture javanaise en général. En plus des instruments de musique qui doivent exister dans l'art Dongkrek, sont le masque Bah Palang qui symbolise les parents, le masque Putri représentant la princesse Roro Ayu et le masque Gendruwo ou démon et géant. Le mélange harmonieux entre la danse et la musique est absolu dans cet art car le début et la fin du mouvement de danse sont marqués par le rythme de kendang. Le batteur doit pouvoir s'adapter à la position du danseur. Inversement, les danseurs doivent aussi faire attention aux signes et au rythme donné par le joueur de kendang. L'élément le plus important dans l'histoire et les figures de Dongkrek ont une signification plus profonde. La figure gigantesque a cependant une nature mauvaise, peut-être invitée à s'unir pour faire le bien. Cette orientation est une leçon que aussi n'importe quel mauvaise l'humain, il doit être bon en lui. L'art Dongkrek enseigne qu'un leader dans la situation difficile ne devrait pas quitter le peuple, mais lutter avec le peuple d'envisager la détresse. Pour préserver l'art Dongkrek, le Bureau d'éducation et de culture de Madiun organise annuellement des festivals Dongkrek en dehors de la ville Madiun. Même Dongkrek a été présenté également au Palais d'État. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, discutant sur Exotric 2, une voiture à carburant calcaire. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. L'Indonésie a une variété de ressources naturelles. En plus d'avoir de nombreux volcans, l'Indonésie a aussi beaucoup de montagnes calcaires. Ainsi, la chaux est l'une des ressources naturelles qui est très fortement utilisée. Typiquement, la chaux est utilisée comme matière première pour fabriquer du ciment, de la céramique, des pesticides, des cosmétiques et même des médicaments. Mais, dans les mains des étudiants de l'Université Brawijaya Malang, la chaux peut aussi être le carburant. Cinq étudiants de l'Université Brawijaya ont l'idée d'utiliser la chaux comme carburant. Il s'agit de Dobita Feliciana, Rizka Dwi Oktaria, Dwi Pujayanti, Afida Hossoh et Sidik Darmawan. Les cinq étudiants ont créé un prototype de voiture spéciale appelé Exotric. Le principe de fonctionnement des voitures Exotric est assez simple, utilisant simplement la réaction entre le calcaire et l'acide. La réaction émergente est appelée une réaction exothermique qui génère de la chaleur. L'énergie thermique est convertie en énergie électrique à l'aide de matériaux semi-conducteurs de type P et N. Cette énergie électrique est utilisée pour entraîner un moteur à courant continu qui est ensuite transmis aux roues de la voiture. Initialement, l'équipe de l'Université Brawijaya a fabriqué la première voiture Exotric de la première génération. Malheureusement, Exotric 1 ne parvient pas à maximiser l'énergie de la chaux. Cependant, cette voiture a été incluse dans le troisième concours de Chem ICAR Indonésie 2014 à l'Institut de Technologie 10 novembre Surabaya. Bien que pas maximal, mais l'idée derrière la voiture exotrique lui fait occuper la deuxième position dans la compétition. De la première génération qui a échoué, l'équipe de l'Université Brawijaya a continué avec une deuxième génération d'Exotric ou Exotric 2. Exotric 2 a de divers développements tels que les systèmes de transfert d'énergie, les systèmes d'arrêt, les réactions chimiques et un châssis plus puissant et léger. La forme est similaire à une voiture télécommandée. Cette voiture peut apporter le nom de la nation sur Chemicar à Perth en Australie. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bon. Bonsoir tous les auditeurs de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se rencontrera avec moi, Yubi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons d'un groupe de musique Ungu. Commençons notre rencontre en écoutant une chanson qui s'intitule Berikan Aku Cinta ou en français Donnez-moi l'amour. Voilà la chanson intitulée Berikan Aku Cinta ou en français Donne-moi l'amour par Ungu. Ungu a longtemps été actif dans l'industrie de la musique en Indonésie, à partir d'une réunion commune en 1995, son ami Maki, bassiste et qui guitariste, Gatot clavériste et Michael, chanteur et Roman, batteur, ont formé le groupe Ungu. Malheureusement, ces cinq amis ne sont pas toujours ensemble. Plusieurs fois, la formation de ce groupe a changé. Mais la position la plus mémorable des auditeurs de la musique indonésienne est Roman, batteur et Pasha, chanteur. Cependant, le changement des membres de rang n'est pas difficile à la réussite de Ungu. Ceci est attesté par son premier album intitulé La Goukou ou Ma Chanson en 2002. Ces auditeurs, je vous présente une chanson dont le titre est Demi Wartou ou Pouletta. Bonne écoute.
Di antara kita, namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cinta. Rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingmu maafkanlah diriku sepenuh hatimu seandainya bila ku bisa waktu itu ku tak jumpa dirinya mungkin semua takkan seperti ini dirimu dan dirinya kini ada di hatiku membawa aku dalam kehancuran. We'll be right back.
Voilà la chanson intitulée Demi-Waktu pour le temps par Ungu. Demi-Waktu est l'une des chansons les plus réussies de Ungu dans le pays. Cette chanson donne à Ungu le prix de l'album de pop rock duo Le Meilleur Groupe. Aujourd'hui, la popularité de ce groupe est en baisse, surtout parce que Passa, le chanteur, a quitté le groupe, car il a servi comme maire adjoint de Palu, Sulawesi Central. Alors, chers auditeurs, voilà le groupe Ungu. Pour clôturer la rencontre aujourd'hui, en écoutant la chanson Yogyakarta de Kaila Project qui a été chantée par Ungu et Kekasi Glaku ou Mon âme en secret. Merci pour votre attention et à la prochaine.
Thank you.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidup. Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.